enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
La première bénédiction, verset 3. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. La deuxième. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Verset 5, ta corbeille et ta huche seront bénies. Verset 6, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. 7, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. 6, donc nous sommes sur la bénédiction du verset 7, c'est-à-dire la cinquième bénédiction qui est la porte de Zabulon. Amen. Là, voilà. Là, le verset 8 qui suit. Suivez bien à partir de là. La Bible dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Et je vous ai fait remarquer ceci. Juste après la victoire sur les ennemis, c'est-à-dire la bénédiction qui te dit, les ennemis viendront contre toi par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Vous suivez, vous lisez attentivement, vous allez vous rendre compte que toutes les faveurs commencent à être multipliées. Amen. Ce soir-là, ne laissez pas le sommeil vous distraire. Et les ennemis vont vouloir que vous n'entendiez pas la clé pour les chasser. Donc bats-toi, lutte, frappe-les, tout ça là. Amen. Sachant toi, tu sors là-bas, tu cries un peu au nom de Jésus. Et puis tu viens. Tu dis, oh Dieu, on ne se laisse pas faire. Amen. Non, je vais vous communiquer des classes importantes. Alléluia. Je vais vous dire des choses très, très, très fortes qui vont vraiment vous aider. Je voudrais que ce soit quelque chose de très pratique, de très concret. Des choses que vous puissiez appliquer dès que vous sortiez ici, n'est-ce pas? Que vous devez appliquer et voir la faveur de Dieu se manifester. Amen. Amen. Ok. Donc, juste après donc la bénédiction qui dit, tes ennemis viendront contre toi par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Si vous lisez la suite, vous allez vous rendre compte que les faveurs sont multipliées. La première, par exemple, il dit, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Le grenier, c'est quelque chose qui... C'est un entrepôt, ok? C'est un entrepôt où on conserve la nourriture. Quelques versets auparavant, il a dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Ça aussi, la corbeille et la huche, ce sont des ustensiles de domicile dans lesquels on conserve la nourriture. Mais la corbeille et la huche sont beaucoup plus petits que le grenier. Alléluia. Quand vous regardez, vous pouvez avoir l'impression que c'est la même bénédiction. Mais ce n'est pas la même bénédiction. Maintenant, là, tu n'es plus dans une affaire de corbeille et de huche, tu es dans une affaire de grenier. Là, tu peux nourrir tout un village. Voici la différence. Et quand vous continuez, vous allez voir que à peu près les quatre premières bénédictions sont répétées, à la différence que maintenant, elles sont plus élargies. Par exemple, il dit, je te bénirai dans la ville et dans les campagnes. À partir de cette bénédiction que j'ai citée, la porte des ennemis, il ne parle plus de ville, il parle de pays. Et à la fin, il dit, tu vas dominer les nations. Alléluia. Donc les bénédictions sont citées de manière progressive, de gloire en gloire. Et la bénédiction qui est la porte, qui ouvre à la gloire, qui ouvre à la dimension de la multiplication, c'est celle-là que nous sommes en train de trouver, que nous sommes en train d'étudier. C'est la bénédiction qui parle des ennemis. Elle dit, les ennemis viendront contre toi par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Autrement dit, la victoire sur vos ennemis va vous ouvrir la porte de la multiplication. Si vous n'avez pas la victoire sur vos ennemis, à la limite, les choses que vous pourrez avoir, c'est que vous aurez tout juste de quoi vivre, manger, dormir. En tout cas, votre vie va rester assez médiocre. Et dimanche dernier, je vous ai dépeint tout un tableau pour vous expliquer qu'il est primordial pour nous de grandir. Il est primordial pour l'Église d'avoir plus de personnes. Il est primordial que l'Église puisse croître. Si l'Église ne grandit pas, tu vas prier longtemps pour avoir un mari, tu risques d'avoir des problèmes pour te marier. Tu risques d'avoir des problèmes pour trouver un boulot. Alléluia. Amen. Car il y a beaucoup de soeurs qui sont là. Vos maris ne sont pas là parmi nous. Ils sont encore dans le monde. Oui. Et comme vous refusez de l'évangéliser, on n'a pas dit d'aller chercher les maris. On dit de gagner les âmes à Jésus. Quand vous allez commencer à convertir les personnes, bon, tu dis, Seigneur, ouais, l'homme de ma vie, ouais, l'homme de ma vie. Mais actuellement, l'homme de ta vie est païen. La Bible dit que comment les gens entendront-ils parler du Seigneur s'il n'y a personne qui va leur parler? Les gens vont se convertir comment? Il y a un homme qui a dit, le Seigneur lui avait donné un talent. Il dit, Seigneur, j'ai vu que toi, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu prends ce que tu veux. Mais Dieu l'a jugé sévèrement. Il y en a qui se disent, Dieu n'a pas besoin de moi pour convertir les autres. Ton mari est dehors et tu es en train de pleurer dans l'église. Depuis là, je ne comprends pas, je ne vois pas. Tu n'évangélises pas, tu montes dans la ville, tu rencontres des gens dans la ville, tu ne leur parles pas de Jésus. Soyons concrets. La Bible dit une chose. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus tout. Le royaume de Dieu là, c'est quoi? c'est chercher la volonté de Dieu, mais c'est aussi évangéliser, c'est gagner les âmes. La Bible dit, repentez-vous quand le royaume de Dieu est proche. Il y a des gens qui ont des affaires ici, qui sont un peu bloqués. Ils ne savent pas comment vendre. Ils ne savent pas, mais parce que il n'y a pas beaucoup de chrétiens pour acheter vos appareils, pour acheter votre produit. Amen. Et les autres préfèrent aller ailleurs. Et les clients que vous avez sont très peu nombreux pour vous permettre d'être épanoui. Et les gens vont être là, continuer à l'église, à pleurer. Dieu dit, cherche premièrement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, là, ça veut dire, nous tous, on doit gagner. On gagne comment? On cherche d'abord les intérêts de Dieu. On sauve les gens. Et puis Dieu cherche nos intérêts. Amen. Dieu cherche nos intérêts. Gloire à Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Et c'est en cela que je vous ai dépeint ce tableau pour dire, il nous faut absolument croître. Si les musulmans peuvent se permettre d'avoir quatre femmes, c'est parce qu'ils sont nombreux. Vous comprenez, non? Si c'était peu nombreux, même s'il va avoir quatre, on dit, mon frère, il n'y en a plus, donc il faut prendre une. Et si on les a toutes évangélisées, lui-même va se convertir. Tout est une affaire de nombre. Tout est une affaire de population. Vous êtes combien? Plus vous êtes nombreux, plus vous gagnez. Aujourd'hui, le pays qui est en train de prendre le monde entier, ce sont les Chinois. Avant, toutes les nations les rejetaient. On dit non, c'est le communisme, on ne veut pas d'eux. Les hommes d'affaires disent, eh, même si c'est le communisme, laissez-les. On dit, respecte pas le droit de l'homme. Les hommes d'affaires disent, mais le pays là nous intéresse. Vous savez, ils sont combien? Un pays, en lui seul, qui a près de 2 milliards d'habitants. Donc actuellement, là, ils ont un taux de croissance extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'ils sont les plus nombreux. Un des deuxièmes pays qui a le taux de croissance extraordinaire encore, c'est l'Inde. Eux aussi, ils atteignent le milliard. Ils sont très nombreux. Le pouvoir vient du nombre. Alléluia. C'est pourquoi il nous faut absolument passer la porte des ennemis. La porte des ennemis permet notre multiplication. Le diable, pour ne pas que nous puissions prendre la terre, pour ne pas que nous puissions manifester le règne de Dieu, pour ne pas que tu puisses le manifester, va t'empêcher de prendre la porte de Zabulon. Le diable n'a pas trop peur que tu sois béni, que ta corbeille et ta huche soient bénies. Si c'est ta corbeille, tu restes dans la maison, tu manges et tu dors, ça ne les ferait pas trop. Le diable n'a pas peur que tu sois béni dans ton champ, dans un petit village, et que dans la ville tu as ta boutique. Il n'a pas trop peur de cela. Le diable n'a pas peur de ces choses parce que tu n'es pas influent. Si tu as trop fait, c'est quatre personnes que tu vas convertir. Tes employés, tu vas lutter avec eux pour les amener à Christ. Et puis deux clients. Deux ou trois clients. Tu vois. Alléluia. Alléluia. Le diable n'a pas peur de ces choses. Mais le diable a peur que vous arriviez à passer par la porte de Zabulon. Si vous avez cette bénédiction, regardez, il y a tellement de passages qu'on peut lire. Toute vraie bénédiction qui vient dans la vie d'un homme, dans la parole de Dieu, chaque fois les gens prononcent, tu vas avoir la victoire sur la porte, Dieu va te donner la porte de tes ennemis. La porte de Zabulon s'appelle aussi la porte des ennemis. Quand Dieu te dit, je te donne la porte de tes ennemis, c'est la parole qu'il doit prononcer. Ou bien il dit, je te fais triompher de tous tes ennemis. Quand ça là s'est sorti, une parole, ça n'a qu'à glisser seulement dans la bouche de Dieu. Mais pour que ça sorte là, ah, papa aussi n'est pas évident. Hein? Jacob, pour avoir la bénédiction qui lui était promise, il a lutté avec l'ange jusqu'au matin. Pour une parole. Il dit, tu ne me bénis pas, tu ne t'en vas pas. Parole simplement. Là. Si vous voyez que l'ange a lutté pour lui donner la parole, c'est parce qu'il y a bénédiction et puis il y a bénédiction. C'est parce que ce qu'il allait dire était très fort. Alléluia. Voici donc la porte de Zabulon. Et cette porte de Zabulon, j'ai dit, dans la parole de Dieu, on a fait l'historique la dernière fois avec tous ceux qui étaient là le mardi. On a présenté un petit tableau de l'Ancien Testament avec les différents types d'ennemis. Comment j'ai fait mon développement? Depuis Adam et les différents hommes de Dieu qui sont suivis, vous pouvez détecter les diverses oppositions qu'ils ont eues dans leur ministère et voir comment ils ont eu la victoire ou bien comment ils ont été vaincus. Amen. Et avec cela, sur cette base, nous avons tiré les leçons essentielles pour voir les différents types d'ennemis. Le premier ennemi que nous avons cité, qui s'est adressé à l'homme, qui a attaqué l'homme, c'est le serpent. Dans l'ennemi qu'on appelle le serpent, vous avez toutes sortes d'ennemis que je nomme comme étant les séducteurs, les faux prophètes, les faux docteurs. J'en ai longuement parlé le mardi dernier. Alléluia. Juste rappeler ce passage, 2 Corinthiens 11, 3 à 4. toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Alléluia. 2 Pierre chapitre 3 verset 17. Le Seigneur dit, vous donc bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Quand vous lisez les épîtres, les évangiles, particulièrement l'évangile de Matthieu 24 et encore d'autres, le Seigneur insiste, en ce qui concerne la mentalité du serpent, sur les faux prophètes. Et aujourd'hui, ils sont nombreux. Le serpent est un séducteur. Le passage de 2 Corinthiens, le chapitre 11, verset 3 à 4 qu'on a lu, Paul est en train de dire aux chrétiens, il dit, ne vous laissez pas séduire. Il dit, de même que Ève s'est laissée séduire par le serpent, je crains que les faux prophètes viennent vous séduire. Mes amis, il faut que je vous parle de cela. Si vous n'avez pas la victoire sur vos ennemis, vous ne pouvez pas passer à la phase de la multiplication. Les premiers ennemis qui viendront vers vous, pour lesquels le Seigneur a longuement averti l'Église, ce sont les faux prophètes et les faux docteurs, les vendeurs d'illusions, les menteurs. Les gens qui arrivent vers vous, qui rentrent dans des maisons, qui vous donnent de fausses prophéties, ou même qui annoncent des choses et qui vous séduisent. Prenez garde. Tant que vous allez fonctionner avec de faux serviteurs de Dieu, de faux prophètes, vous n'aurez pas la victoire sur la porte de Zabulon. Amen. Alléluia. Ouvrons nos bibles dans le livre de Matthieu chapitre 24. Donc mardi dernier, j'ai donné un exemple d'une séduction. J'ai dit aux frères qui étaient là de prendre garde à cette histoire de DVD qui court dans les rues et qui accuse les gens d'être des sorciers, d'avoir tué des bébés et de ne pas se laisser troubler par des choses de ce genre-là. Parce que ça ne vient pas de Dieu. Amen. Ça ne vient pas de Dieu. C'est une séduction. Peu m'importe de savoir si à l'intérieur de ce que les gens sont en train de dire, c'est vrai ou c'est faux. Mais ce que je constate, c'est que, et je l'ai expliqué longuement, un séducteur, ce n'est pas quelqu'un qui ne dit pas forcément la vérité. Ce n'est pas quelqu'un qui ne dit pas forcément des choses qui sont réelles et vraies. Mais c'est que l'esprit qui l'amène à parler est faux. Et je vais vous expliquer comment détecter cela. Je prends simplement l'exemple de ce DVD-là qui est en train de circuler. Comment savoir que c'est faux? Très, très banalement, réfléchissez quelles conséquences ça peut avoir. C'est tout. La seule chose que ça peut faire, c'est pour troubler les chrétiens. Donc, les gens dans leur église vont se demander, mon pasteur, il est sorcier ou il n'est pas sorcier? Bon, on ne peut plus prier. Mais c'est quelle histoire ça? Vous comprenez? Donc, tu arrives à l'église et tu es troublé. On dit, bon, c'est cela qu'on a cité. C'est pas... Attends, non seulement le DVD, l'enseignement ne peut même pas convertir une personne. Attends, qui, honnêtement, un païen peut regarder ça et puis va donner sa vie à Jésus? Donc, le fruit ne peut pas glorifier le Seigneur. La Bible dit, vous reconnaîtrez un prophète à son fruit. Peu importe de savoir si quelqu'un est sorcier ou n'est pas sorcier. Parce que Dieu ne procède pas de telle façon. Je vous ai donné des exemples très précis. Je dis, on n'a pas besoin d'attendre un sorcier pour avoir les révélations de Dieu. Moi, je reproche aux frères qui ont fait ces trucs-là. Je dis, mais vous passez beaucoup de temps à prier. Dieu ne vous a pas parlé. Hein? Il a fallu qu'un ancien sorcier viennent vous donner une révélation et que vous croyez plus qu'à vos propres révélations. Faites attention. Faites attention. Prenez garde. Quel est le but? Et j'ai donné un exemple pratique qui m'est arrivé. Où une personne est venue faisant croire qu'elle était possédée. Nous nous sommes mis à chasser le démon. Et pendant ce temps-là, quand elle, dans sa période de lucidité, elle nous racontait des bobards. Oui, elle nous citait des gens. D'abord, elle commence par des gens même que tout le monde sait qu'ils sont sorciers. Elle dit, oui, on dit oui, nous, on était au courant. Et puis après ça, elle commence à citer beaucoup de gens. Mais moi, je ne l'ai même pas laissé parler. J'ai appris ce qu'elle avait envie de dire parce qu'elle a raconté à d'autres frères. Mais quand la fille est arrivée chez moi, parce que les frères étaient nouveaux dans la foi, je leur ai dit une chose. On ne prend jamais un témoignage dans la bouche d'un démon. Jamais. Amen. Suivez bien Jésus. Regardez Jésus. Chaque fois qu'un esprit mauvais a envie de lui dire, tu es le Christ, il dit, tais-toi. Toujours. C'est pas parce que ce que l'esprit dit est faux. Mais Jésus ne peut pas prendre la parole d'un démon pour dire, mes amis, écoutez le démon. Il dit que moi je suis le Fils de Dieu. Si le démon parle, attends quand même. Jésus dit, tais-toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand le diable parle, même si ce qui t'est dit est vrai, il y a un piège derrière. C'est pourquoi on dit, c'est un sorcier. Mon frère, Peut-être qu'il y en a des histoires qui sont vraies, ça c'est pas notre problème. Mais comme ça ne vient pas de Dieu, on n'a rien à voir avec ça. Ne vous laissez même pas troubler. L'Éternel qui est vivant, que tu pries tous les jours, ne peut pas te dire que quelqu'un qui veut prier, ne peut pas te dire que quelqu'un est sorcier, toujours tu vas chez ton pasteur et prie pour toi, tu n'as pas encore eu la révélation. C'est que toi-même, faut revoir ta vie chrétienne. Non, le Saint-Esprit ne te parle pas. Tu-même, tu pries, le gars pose ta main, il tourne ta tête, il parle avec toi. Depuis là, tu n'as pas de discernement. Un ancien sorcier vient te dire. Tu dis, ah bon? Mais toi, où est ton Saint-Esprit? Alléluia! Mais pourtant, c'est vrai que la parole de Dieu dit qu'il y a des faux prophètes. C'est vrai que la Bible dit qu'il y a des gens qui font l'occultisme dans la maison de Dieu. Ça existe. Mais nous ne prenons pas nos sources d'information chez le diable. Dieu doit nous parler. Et c'est Dieu qui règle ses problèmes. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est leur séduction. Et les gens, ils aiment ça. Connaître comment le diable dort, d'où il sort, où il est venu. C'est une séduction. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, il dit, Matthieu 24, 5, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre, ainsi de suite. Il va continuer plus bas en disant, il y aura beaucoup de faux prophètes. C'est normal qu'il y ait des faux prophètes. La Bible annonce que pour la fin des temps, il y en aura. Dieu dit que ces faux prophètes-là ont pour but de vous empêcher de vous multiplier. De vous empêcher de porter des fruits. Parce qu'il injecte dans votre pensée des idées fausses. La première séduction contre Adam et Ève, c'était le serpent. La première séduction est le serpent, comme on a lu en 2 Corinthiens 11, versets 3 à 4. Il dit, de même que le serpent a séduit Ève, je crains que vous aussi, les faux prophètes vous séduisent. Alléluia. Prenez garde aux faux prophètes. Amen. Je dis, je donnerai tout un enseignement là-dessus sur les faux prophètes et les faux docteurs. Alléluia. Vous avez des gens qui arrivent et vous voyez pendant qu'ils prient avec vous, ils vont vous raconter. Ils peuvent vous donner même des révélations justes. Et moi, je me souviens, j'ai tellement de gens dans ma vie chrétienne. Laissez-moi vous raconter un témoignage. Quand j'étais à Dalois, il y a un homme de Dieu que je voulais aimer. Ah, il était dangereux. J'étais responsable de la cellule de prière du lycée. On était au lycée 2. Et on a dit qu'il y a un homme qui est arrivé dans la ville, mais vraiment, une parole de connaissance précise. Et moi, j'étais content parce que j'aimais la puissance de Dieu aussi. J'aimais la parole aussi. Et ce pasteur-là, entre guillemets, arrive et puis il donnait des révélations. Parole, tant, tu es là, et puis clair. J'ai dit, quoi? En ce moment, il n'y avait pas les paroles de connaissance comme aujourd'hui. Là. C'était rare. On ne connaissait même pas ça. On connaissait professionnellement ici, pas l'Éternel, mais paroles de connaissance, on avait, c'était rare. Donc voilà, c'était une star. Et puis on a commencé, je me suis dit que bon, sûrement je vais collaborer avec cet homme de Dieu, on va travailler ensemble, j'étais très zélé. Et un jour, pendant que je suis en train de prier, l'Éternel me donne une vision. Là, Dieu m'a sauvé par une vision. Dans la vision, oh, il y a tellement longtemps, j'oublie un peu. Je vois un homme qui marche, je me souviens plus de la vision, mais ce qui est certain, c'est que j'ai vu ce frère-là, ce monsieur, qui avait été chrétien, qui a rétrogradé. Et j'ai vu le diable qui a dit à qui je vais donner un pouvoir pour séduire l'église. Et on l'a choisi. Et en lui, il y a des esprits qui sont venus entrer. Et dans la vision, je voyais. Au début, quand je voyais la vision, je ne voyais pas le visage du monsieur. Donc je ne savais pas de qui il s'agissait. Et puis après, je voyais la personne arrêtée devant les foules et les démons qui quittaient la salle. Les esprits qui possèdent les personnes. Ils quittent et puis il vient dire à son oreille, tu vois la femme qui est là-bas là. Elle a tel problème. Comme c'est lui-même le démon qui lui donne la maladie là. Il vient lui expliquer. Et puis il s'élève, puis il dit, oui, il y a une femme qui est là. Voilà, tu as ça. Bon, toi tu n'as pas vu le trajet du démon. Donc pour toi, c'est Dieu qui a parlé. Or, il tenait ces informations. Les esprits venaient lui faire des rapports sur la vie des gens. Hein? Chaque démon qui poursuit quelqu'un vient lui faire un rapport sur la vie de la personne. Et lorsque nous avons dévoilé cela, bon, on a fait une prière, le monsieur était dévoilé, il a quitté la ville. Mais j'avais failli être séduit. Alléluia. J'ai aussi failli être séduit par... Avant, j'étais tellement zélé, j'aimais beaucoup les prophéties. Il y a un esprit très dangereux qu'on appelle l'esprit de Python. Ça, c'est pour les gens qui aiment les révélations. Je vais vous dire quelque chose. Hein? Le temps me manque de pouvoir parler en détail sur les faux prophètes. Mais c'est une grosse séduction. Tout homme de Dieu, ou bien prophète, ou pasteur, qui vous donne des révélations au point de vous rendre dépendant de lui, est un séducteur. De sorte que, écoutez-moi bien, tu ne peux pas manger Tu veux bouger, pasteur? Il t'appelle, il dit, je suis ton père spirituel. C'est un esprit, débutant, c'est un esprit de domination. Et il prend ton esprit. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas manger. Vraiment, il faut le consulter. Même toi-même, tu pries, même on te dit de ne pas avoir confiance en ta prière. Tu pries pour ton sujet. Si lui n'a pas prié, Dieu ne peut pas te répondre. Un homme comme ça est un séducteur. Écoute-moi bien, parce que je sais que je parle à des gens ici. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des prophètes chez eux à la maison. Ils ont fini leur culte. Écoutez-moi. Lisez votre Bible. Lisez votre Bible. Dieu ne partage jamais sa gloire avec un homme. Le Saint-Esprit a été répandu sur toute chair. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir un pasteur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas partager vos sujets avec une personne. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, prier avec une personne. Mais quelqu'un qui peut être dans votre esprit un peu comme un Dieu et qui aime ce titre-là, il ne va pas s'appeler Dieu. Tu vois? Il doit expliquer tous tes songes. Il t'appelle constamment comment tu as dormi, tout ça là. Fais attention. Comme on dit, le temps me manque de parler en détail des faux prophètes. Alléluia. Mais prenez garde, parce que les séducteurs sont nombreux. Amen. Dans le livre de 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. On va encore dans 2 Timothée chapitre 3 verset 1. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et religieux, insensibles, déloyaux, calomnateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce. Et ces gens-là, leur cible, ce sont les femmes. C'est ce qu'on a dit ici. Les sœurs, prenez garde à vous que les gens ne viennent vous ravir le prix de la course. Quelqu'un parle, tu dis, passons, parlons dans la Bible, allons dans la parole de Dieu. Mais vous êtes là, quelqu'un avec qui vous traitez, qui vous parle de Dieu, et qui vous ne vivez que dans le domaine des révélations seulement. Sans la parole, vous êtes en l'air. Hier, Dieu m'a dit, voilà comment tu dois prier, voilà comment tu dois te laver, voilà la Bible que tu dois porter. Attention, faites attention. Deuxièmement, faites attention. Je n'ai pas dit que tout le monde est faux, mais la Bible dit qu'il y en a beaucoup. La Bible dit qu'il y en a beaucoup. Il y a des vrais hommes de Dieu. Amen. N'aimez pas la facilité. Le but de la chrétienté, c'est de vous amener à avoir une intimité personnelle avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens, lorsqu'ils arrivent dans la vie chrétienne, ils veulent abandonner leur recherche de Dieu dans la main d'un individu. Maintenant, eux-mêmes, ils vaquent à leurs occupations. Un pasteur prie pour eux. Une fois, maintenant, venu me dire qu'il y a un pasteur qui est venu voir une dame pour lui dire, ma soeur, il faut que tu me fasses une offrande de près de 5 millions pour que je te fasse un genre de parapluie spirituel. Et que, il dit, quand je prends cette offrande et que je la mange, j'utilise cette offrande. Il dit, tu n'as même plus besoin de prier même. Il dit, à partir de maintenant, rien ne peut arriver. Je gère tout. Mais il faut semer dans l'œuvre de Dieu. Un homme comme ça, je dois, n'aie pas peur de lui dire, arrière de moi, Satan. Vous savez, tout le monde n'est pas pasteur. Si quelqu'un, dans ce qu'il vous exhorte, vous enseigne, ne vous conduit pas vers Christ, mais vers sa personne, faites attention. Le but de l'évangile, c'est Christ qu'on présente. Pas un individu. Si quelqu'un vous parle au point où dans votre vie il est devenu comme Dieu, faites attention, c'est une séduction. Alléluia. Si quelqu'un vous parle et que toute son intention, c'est l'argent qui est dans votre poche, faites attention. Faites attention. Vous risquez de ne jamais passer la porte de Zabulon. Ils vont vous enfouir de révélation en révélation. Il y en a qui s'accomplissent, il y en a qui ne s'accomplissent pas. Ta vie est troublée. Tu es là et tu n'arrives même pas à toi-même à prier, à prendre des décisions. Que là, oh, c'est ma fille. Attention. Amen. C'est vrai qu'il y a des pères spirituels, il y a des enfants spirituels. Mais un homme de Dieu doit apprendre à connaître la parole. Un homme de Dieu doit te donner l'amour de la parole. Un homme de Dieu doit travailler à développer ta communion avec Dieu. Alléluia. Un homme de Dieu doit apprendre à te rendre au fur et à mesure indépendant. C'est vrai que depuis que quelqu'un qui est converti nouvellement, il y a des choses qu'il ne connaît pas. Donc il a besoin d'encadrement. Amen. Mais au fur et à mesure de ta croissance, tu dois être éduqué et formé pour être indépendant. Tu viens, tu suis ton culte et tu apportes aussi ta contribution dans l'église. Tu respectes les autorités spirituelles. Tu as de la différence pour eux. Alléluia. Mais ils ne sont pas Dieu. La Bible dit de respecter les autorités, mais ils ne sont pas Dieu. Amen. La Bible dit de juger des prophéties. Écoutez-moi bien. Lisez 1 Corinthiens chapitre 14. La Bible dit, écoutez les prophéties, examinez-les. Un prophète qui refuse qu'on examine sa prophétie, faites attention. Il dit, Dieu a dit, veux-tu désobéir à Dieu? Dieu part. Et sachant que tu as un esprit faible et que tu as peur de ceux qui parlent avec autorité, il te dit, si pareil, tu n'as même pas le temps d'examiner. N'acceptez jamais une prophétie. Je n'ai pas dit qu'elle est fausse. On vous prophétise sur votre vie. Même si j'ai invité un prophète ici. Vous m'écoutez, hein? Même si moi-même je viens puis je parle. Je dis ainsi par l'Éternel. Tant. Bénis l'Éternel. La parole te convient. Va dans la présence de Dieu. Cherche une confirmation. Lis la parole. Voici les confirmations. Et quand elle les prend, prends-la. Et puis agis en fonction. Amen. Si vous agissez sans vous appuyer sur la parole de Dieu, sur n'importe quelle révélation, vous allez tomber sur de faux prophètes, des séducteurs très dangereux qui vont vous perdre. Combien de gens ont contracté des mariages de manière prophétique bizarre? C'est ton mari. Mais aujourd'hui, mes amis, je vous assure, on est en train de régler plein de cas, même des amis pasteurs. Parce que tous sont arrivés, on dit, oui, c'est ta femme qui est là, c'est ta femme. Le monsieur, il n'aime pas. Il dit, mais comme Dieu a dit, Dieu t'a dit quoi? Dieu t'a parlé? Dieu t'a-t-il parlé? La Bible dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes. Et par exemple, un homme qui allait manifester un faux potentiel, Satan lui balance la femme qu'il ne faut pas par un faux prophète. Il n'a pas pris le temps d'examiner la parole de Dieu. Ce que la Bible dit là, ça n'intéresse pas. C'est ce que les prophéties disent qui l'intéresse. Les gens ont peur, ils trouvent que la Bible est trop grosse. Ils n'ont pas envie de lire. Lisez. Méditez la jour et nuit. Examinez toutes choses. Une prophétie est là. Regardez si elle est conforme aux Écritures. Ça fait plaisir à Dieu. Quelqu'un qui n'examine pas une prophétie, qui l'accepte bêtement, Dieu est fâché avec lui. Ça ne plaît pas à Dieu. Un homme peut se tromper. Même s'il est de bonne intention, il peut se tromper. C'est un homme. Frère, on est des hommes. Les pasteurs, là, on est des hommes. Mais il faut respecter les hommes de Dieu. Il faut avoir du respect. Ce n'est pas parce qu'on est des hommes, tu vas prendre le pasteur comme ça ne fait rien. Là aussi, tu offenses Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà. Amen. Si tu as compris, il faut acclamer le Seigneur. Donc c'est ce que la Bible appelle les serpents. Je crois que la communication doit avoir encore quelques enseignements sur les faux prophètes et les faux docteurs. J'espère qu'il y en a encore. Ce sont des enseignements que j'ai partagés longuement dans l'église au début. Et je crois que très bientôt, avant la fin de l'année, je reprendrai ce thème-là en détail. Avec beaucoup de choses. J'aime beaucoup ce thème parce que moi-même, j'ai souvent été victime de ces personnes. Au début de ma vie chrétienne, j'étais trop zélé. Et dans mon zèle, il y a un temps, j'ai commencé à avoir beaucoup de révélations. Et j'ai rencontré une femme. Elle avait assez d'argent. Et elle avait un esprit de python dangereux. Dangereux. On était à Gagnoa. Belle femme, bien. Et quand je l'ai vu, moi j'avais tellement envie d'évangéliser le monde. Quand je l'ai vu, j'ai dit, mais voilà une femme qui est consacrée. Ça là, si je travaille avec elle, elle va financer mes évangélisations dans les villages. Gloire à Jésus. Et mon ami m'en a appris que, j'avais un ami, il s'appelle Vincent Amissali, m'en a appris que cette femme avait une maison chez elle, avait une cellule de prière, pardon. Et dans la cellule de prière, bon, au départ, mon ami et moi, on avait une cellule. Et les personnes demandaient qu'on casse la cellule. Donc on a cassé. Et on cherchait un endroit pour être encore, pour pouvoir nous exprimer, tout ça. Et on nous a parlé de cette dame-là. Elle aussi, elle nous a appelés, on s'est rencontrés, on a causé. Elle dit, bon, voilà, il y a ma cellule. Vraiment, vous pouvez venir diriger, on a parlé. Mon ami Vincent, il était plus mature dans la foi que moi. Moi, j'étais zélé. Quand tu me vois, tu vas penser que je suis plus spirituel que lui. Mais je manquais de maturité. Et la dame, quand nous a parlé, moi pendant qu'elle nous parlait, qu'elle parle de ses révélations, elle dit oui, c'est hier quand je priais, l'Esprit de Dieu me parle. La nuit, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Ça, c'est pour ça, quand on parle, ça te mystifie. Donc, j'étais mystifié. Là. Elle dit oui, toute la nuit, l'Esprit m'a réveillé et m'a expliqué certaines choses. Donc, moi, je suis là comme ça, j'avais les larmes aux yeux. Avance. Il dit, mais c'est que. Je dis, mais elle a une communion avec Dieu. Frère, c'était pas le Saint-Esprit. Mais vous savez, quand tu es nouveau là, tu es un peu tellement émotionnel. Vous savez, la Bible dit que dans Hébreux chapitre 4, verset 12, la Bible dit la parole de Dieu est puissante puisqu'il n'est pas double tranchant pour séparer âme et esprit. Ça veut dire quand tu es nouveau chrétien là, ton âme est confondue avec la volonté de ton âme est confondue avec la volonté de ton esprit. Donc tu es très émotif. Et tu crois que tes émotions, c'est la voix du Saint-Esprit. Et c'est à ce niveau-là, j'étais. Donc elle me parle comme ça, j'avais les larmes. Je dis, mais c'est une fille. Qu'elle parle, elle dit, on était parti ici. On a eu tel cas qu'on a prié. Le malade est guéri, tout ça. Et elle parle de sa communion, comment elle dort avec le Saint-Esprit. Vraiment, tu sens que. Moi, j'étais déjà KO. J'étais admiratif. Mais mon ami Vincent, il était plus lucide. Quand elle a fini, elle dit vraiment, cherchons le Seigneur pour voir s'il veut que vous conduisez la cellule. On dit, non, elle nous a demandé, est-ce qu'on peut venir? On dit, on va prier, mais faites spirituel quand même. On dit, on va prier pour demander la volonté de Dieu. Et mon ami et moi, on s'est retiré pour aller prier, mais Dieu est bon. Dieu ne nous a pas parlé clairement, mais on a senti lui au moins la conviction d'aller conduire la cellule. Donc nous sommes partis. On s'est dit que Dieu nous avait parlé, donc on va, mais en fait, Dieu voulait m'apprendre quelque chose. Et on va à la cellule. Donc on loue Dieu, on danse. Et bon, ça, c'est dans le salon de la dame, hein. Il y avait une table au milieu. Là. Donc on danse, on vient, on tourne autour de la table. Les chants, on loue en rond. Mais mon ami Amisalé, il est très bon. Lui, il a un don de discernement. Moi, je n'ai pas un bon don de discernement. Lui, il a un bon don de discernement. Donc on loue, on loue, on loue. Quand on a fini le programme, je crois que ce jour-là, c'est moi qui ai prêché. On sort. Il dit, mais la dame, pourquoi on tourne autour de sa table? Je dis, mais Vincent. Quand on chante à l'église, là. On tourne en rond. C'est parce que c'est la table qui était au milieu. On faisait le tour. Sinon, mais il y a quelque chose qui s'accrochait dans sa tête. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Et puis, donc, on a commencé. Vraiment, j'étais. Moi, la femme-là, vraiment, quand je l'admirais. Et chaque année, quand elle te parle. Et puis, elle voyait tous les sorciers. Faites attention. L'esprit de Python, sa particularité, il voit beaucoup les sorciers. Si vous arrivez à quelqu'un, 1, 2, 3, il y a un sorcier ici, il y a un sorcier ici, il y a un sorcier ici là. Ça là, c'est un démon. Je n'ai pas dit que les sorciers n'existent pas, hein, mais les prophètes qui voient les sorciers partout, très souvent, c'est un signe de l'esprit de Python. Très souvent. Parce qu'à un moment donné, vous accusez tout le monde. Le pasteur est Python, tout le monde a sorcier, tout le monde devient sorcier. Maintenant, si toi-même tu les attaques, toi-même tu es sorcier. Ouais. Si vous marchez avec eux, un jour, eux-mêmes ils vont vous dire que vous êtes sorcier. Vous allez voir. Vous allez le rencontrer, mais soyez prudent, je vous enseigne seulement. Amen. Le temps va venir, je vais rentrer dans tous les détails, vous montrer les versets à l'appui, tout ça, comment l'Esprit du Puissant travaille. Parce qu'on en parle dans la parole de Dieu. Amen. Dans Actes chapitre 16, verset 16, l'Esprit du Puissant veut séduire Paul. Quand l'Esprit du Puissant attaque quelqu'un, l'Esprit du serpent, elle commence à dire des choses vraies. Elle commence à dire, elle dit, écoutez ces hommes, ils vous parlent de la part de Dieu. Actes chapitre 16, verset 16. Ce qu'elle disait était juste. Elle dit, écoutez-les, ils vous parlent de la part de Dieu. Après 3 jours. Paul s'est retourné vers elle. Il dit, arrière, il a chassé l'esprit. La femme était délivrée à l'instant même. Mais ce qu'elle disait était vrai. Ces hommes-là étaient en train de leur parler de la parole de Dieu. C'est ça la particularité du serpent. Il vient te séduire en s'appuyant sur une chose qui est vraie. Et c'est là que tu es séduit. Et dès l'instant où tu l'acceptes. Donc si Paul s'était trompé pour dire, mais la femme-là, elle est zélée d'elle. Mettons-la dans notre équipe. Quelque temps après, elle allait diviser le groupe. Un jour, elle allait prendre Silas de côté. Silas, pendant que je priais, Paul, comme l'impression que son pouvoir, là, l'onction, là, attention. Maintenant, on va aller voir Paul. Dieu m'a dit, et l'esprit de Python, il aime beaucoup marier les gens. Il travaille sur les choses que tu aimes. Voilà ta femme, voilà ton mari. Quand l'esprit de Python devient patron, elle dit, il prend l'autorité dans un endroit. Au début, quand il vient dans l'église, il est très discret. Il essaie de s'approcher des âmes faibles. À la fin du culte, il s'approche comme ça. Sœur, j'ai une parole pour toi. Quand tu finis le culte, les gars, à la fin du culte, vous attrapent. Dieu m'a dit que tu dois faire 4 jours de jeûne. Tu ne connais pas. Ça paraît spirituel, on dit 4 jours de jeûne. Hein. Mais le jeûne, là, si tu as fait. Là, j'étais en Italie récemment, il y a une soeur aussi qui a eu ce même problème. C'est un faux prophète. Il est venu lui dire, Dieu me montre que tu dois faire 4 jours de jeûne. Quand elle a fait 4 jours de jeûne, elle a fait un accident. Quand elle est venue nous voir, j'ai dit, c'est bien fait. Toi-même, tu sais qu'il n'est pas sérieux. Ce n'est pas parce qu'on dit jeûner que c'est spirituel. Les musulmans aussi jeûnent. Alléluia. Et cette femme-là dont je parlais, elle jeûnait beaucoup. Chaque année, elle fait au moins 21 jours de jeûne plein. Donc, comment je vois tous ces trucs-là, j'étais dans l'admiration. Maintenant, Dieu va vouloir me sauver en me donnant un songe à moi aussi. Dans le rêve, j'ai vu que je partais à une croisade. Et puis, j'étais avec mon ami Vincent. Et à un moment donné, lui, il a continué la croisade. J'ai dit, Vincent, j'ai oublié mes sandales dans une maison. Donc, devance moi, j'arrive. Je le laisse dans le songe et je retourne dans cette maison-là. Quand je rentre, je vois une dame. La dame, la fausse prophétesse, là, c'était une femme de thème métisse. Elle était métisse. Donc, je vois une autre dame dans la salle où je vais prendre mes sandales qui est métisse. Mais ce n'est pas la même personne. Quand je prends mes sandales, je vais sortir. Elle a commencé à me regarder et puis à m'hypnotiser. Elle me regarde et puis mes forces faiblissent. Donc, dans le rêve, j'ai dit, mais c'est quel démon ça? Je vais la lier tout de suite. Donc, je dis, au nom de Jésus. Elle me regarde, elle ne bouge pas. Et puis, pendant que je parle, moi-même, mes forces ont commencé à faiblir. J'ai dit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom. À un moment donné, je suis tombé. Donc, dans le rêve, moi-même, je pense dans mon cœur, quoi. J'ai dit, mais, J'ai dit, c'est quel esprit, celui qui, au nom de Jésus, ne marche pas aujourd'hui? J'ai dit, bon, après j'ai réfléchi, mais pour le moment, il faut que je fuis. Donc, à un moment donné, pensant qu'elle était, j'étais vaincu, elle a relâché un peu sa pression. J'ai marché à 4 pattes et je suis sorti. Quand j'ai senti qu'il n'y avait plus de pression, je me suis levé, j'ai commencé à courir. Elle est sortie et je partais au lieu de la croisade. Donc, dans le rêve, elle s'est mise derrière moi, elle m'a regardé dans le dos. Et pendant qu'elle me regardait, j'ai commencé à faiblir. J'ai commencé à marcher doucement. Je suis tombé à genoux. Mais j'ai rampé. Dès que je suis arrivé au lieu où il y avait la campagne, avec la présence de Dieu, pouf, son pouvoir s'est arrêté. Je dis, mais c'est quoi ça? Je ne peux pas soupçonner qu'il s'agissait de cette même dame. Et moi-même, je me suis arrêté tellement je l'admirais. Je suis parti lui expliquer le songe. Je dis, voilà, j'ai fait un rêve comme ça. Alléluia. Non, vous savez, quand on est nouveau, on fait des gaffes de façon. Hein. Je dis, j'ai fait un rêve. Mais pour moi, j'étais sûr que ce n'était pas elle. Mais quand je l'ai interprété, elle a senti qu'il s'agissait d'elle. Et puis elle dit, tu sais, à notre collaboration, le diable va te montrer qu'il va vouloir nous séparer. Je dis, mais je ne voyais pas le rapport. Parce que pour moi, elle n'a rien à voir avec ça. Mais c'est plus tard. Parce qu'après, notre pasteur est venu prendre autorité. Il a dit, j'ai appris que vous partez prier avec une telle personne. Je vous ordonne d'arrêter. Voilà la parole qui m'a sauvé. L'autorité de mon pasteur. Quand le pasteur a dit ça, ça m'a fait très mal. Je suis parti avec mon ami. J'ai dit, Vincent, viens, on va aller prier quand même pour demander si Dieu veut que on fasse la volonté du pasteur. Et là, j'ai invoqué le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si tu veux qu'on arrête de travailler avec cette dame, que la pluie tombe sur nous dans cette forêt où nous prions là. Mais si tu veux qu'on continue à travailler avec cette dame, qu'avant de sortir de cette forêt, on rencontre un animal. On a fini de prier, la pluie est tombée sur nous. On dit, bon, Dieu veut qu'on arrête de travailler avec elle. J'ai arrêté de travailler avec cette femme-là avec douleur. Parce que pour moi, c'était une femme de Dieu. Et quelques temps après, quand je me suis séparé, elle a commencé à dire que moi-même, je suis un grand sorcier. Elle dit, moi, je suis sorcier. Elle dit, ah. Et des années plus tard, j'ai vu. Et cet esprit-là, dans la vie de cette femme, l'a détruite. Et sa fille était une très belle fille. Mais l'esprit de Python a détruit la vie de sa fille. A détruit la vie de la dame même. Peut-être qu'actuellement, les deux mêmes sont décédées. Vous voyez? Et ce genre de démons-là, ils viennent dans votre vie, ils vont vous asphyxier. Tu vas commencer à fréquenter, tu vas perdre des années de ta vie chrétienne à fréquenter des hommes de Dieu qui n'ont aucune destinée, aucune vision, qui ne savent pas où ils vont, qui tournent en rond. Eux-mêmes, ils t'annoncent le bonheur pendant que eux-mêmes, leur vie n'est pas en train de bouger. Quand tu regardes leur vie, c'est aucun témoignage de ce qu'ils disent. Ils parlent d'un Dieu fidèle, mais tu ne vois pas la fidélité de Dieu envers eux. Et ils sont là, ils se promènent. Ils rentrent dans les endroits, c'est eux qui ont les meilleures révélations. Faites gaffe. Si vous avez ces ennemis-là qui viennent contre votre vie, et que vous les suivez, Vous ne passerez pas à la porte des ennemis. Et l'ennemi est venu contre vous, mais ce n'est pas enfui par cette chemin. Alléluia. Ah, faut acclamer le Seigneur. Amen, amen, amen. Donc ne vous laissez pas intimider. Un homme parle de la part de Dieu, dit merci, merci homme de Dieu, merci. Tu dis, il dit, demain il faut faire ça. Tu dis, je n'ai pas reçu ça. Permettez-moi que je parte chercher le Seigneur pour voir. Si c'est un bon pasteur, va te dire, c'est très bien, va prier. Mais s'il est offensé, il est frustré, c'est pas normal. C'est que ce qu'il dit, mais ça ne veut pas de Dieu. Ça peut être un vrai homme de Dieu, mais qui a commencé à laisser son cœur gagner par l'orgueil aussi. Tu vois? Qui ne veut pas comprendre qu'il faut apprendre à un chrétien, il faut lui apprendre à être autonome, à lui apprendre à dépendre de Dieu. Donc c'est normal qu'un chrétien te dise qu'il va aller prier. C'est bien. C'est bien. C'est une bonne chose, c'est à encourager. Amen. Qu'il va aller étudier la parole de Dieu, c'est une bonne chose à encourager. Amen. Alléluia. Le deuxième ennemi qui apparaît dans la parole de Dieu, après l'ennemi, le serpent qui est le séducteur, les faux prophètes, les faux docteurs, vous avez Caïn. Caïn a été un ennemi de Abel et Caïn l'a tué. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y a une différence. Il y a le grand groupe des ennemis. Mais dans les ennemis, on peut différencier ces deux groupes de personnes. Les ennemis sournois et les adversaires. Les adversaires, ce sont les ennemis qui s'opposent à vous frontalement. C'est-à-dire que ce sont des choses que vous connaissez qui sont contre vous. Les ennemis sournois sont les personnes qui peuvent fonctionner avec vous. Et le mardi dernier, lors de l'enseignement, on a fait exprès pour citer les hommes de Dieu et ceux qui ont été leurs ennemis. Et on s'est rendu compte que, à près de 60 à 70%, la majorité des ennemis étaient des gens qui étaient proches, des frères et des amis, les plus dangereux. Ce n'était pas les adversaires. Les adversaires, on les connaît. Tu sais que lui, là, il est ton ennemi. Mais l'ennemi sournois, tu ne sais pas qui il est. Ça peut être des gens qui, même pas volontairement, te donnent de faux conseils. Te donnent des choses que tu ne dois pas suivre. Mais je vous assure que ces idées-là sont capables de bloquer toute une entreprise. Alléluia. Alléluia. Si Paul avait laissé l'esprit de Python en Actes 16 rentrer dans leur groupe, leur ministère allait s'arrêter là. Jusqu'à ce qu'ils comprennent et qu'ils se répandent. C'est pourquoi il faut être prudent. Amen. L'ennemi va venir contre votre vie. Mais pour le serpent, votre connaissance de la parole, votre connaissance de Dieu va l'amener à s'éloigner de vous et vous allez le disperser par cette chemin, vous-même pour entrer dans votre propre victoire. Amen. Le deuxième ennemi auquel vous pouvez être confronté, c'est ce qu'on appelle les Caïens. Alléluia. Il y en a beaucoup dans la vie. Ce sont des gens... Simplement, vous fonctionnez avec eux. La Bible dit que Caïn est parti faire son offrande à Dieu. Abel a fait son offrande. L'offrande d'Abel a été approuvée. Quand Caïn a vu cela, Caïn est devenu jaloux. Vous allez distinguer ces personnes-là. Ils vont vous fréquenter. Ils vont marcher avec vous. Mais dès l'instant, vous sentez que vous avez une élévation. Vous voyez qu'ils ne sont pas contents. Vous sentez qu'ils ne sont pas heureux. Ça leur fait mal. Alléluia. Ce ne sont pas des amis. Ce ne sont pas des amis. Un ennemi, ce genre de personnes, vous pouvez les voir par la façon dont elles vous défendent quand les gens vous critiquent. J'ai dit souvent, si quelqu'un vient te traduire les critiques d'une personne, tu dis, hi, ma chère, tu es au courant? La sœur, on dit oui, la sœur Jacqueline, tu sais ce qu'elle pense de toi? On était là-bas, voilà comment elle parlait. Jacqueline, la fais attention à elle, c'est ton ennemi, hein, Jacqueline. La semaine quand elle t'a parlé là, elle-même c'est ton ennemi. J'ai dit, il faut dire, comme je dis, si la personne te parle comme ça, il faut lui demander, mais quand Jacqueline parlait mal de moi, toi-même tu as dit quoi? Un ami est quelqu'un qui te défend toujours. Allez, regardez Jonathan et puis David. Jonathan défendait David devant son père. C'est ce qu'on appelle un ami. Amen. Et un ennemi qui vient dans votre vie va vous mettre en retard. Il est là par son esprit de jalousie. Même si dans son esprit, consciemment, il n'a pas envie de vous détruire. Vous savez, le monde est une affaire spirituelle. Les choses viennent en esprit avant d'arriver dans le monde physique. Par ses conseils, par sa jalousie, il peut vous tuer. Caïn, dans sa jalousie, a tué Abel. Et il a tué Abel. Regardez, la Bible dit quoi? C'est vrai, il a tué physiquement, mais il a d'abord tué avec sa parole. Il lui a parlé. Genèse le chapitre 4, il est dit
Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Alléluia. Le type de Caïn, ce sont les faux frères. Qui, à cause de la faveur de Dieu qui se manifeste dans votre vie, vont essayer de se lever contre vous pour vous détruire. Amen. Pour vous arrêter d'une manière subtile ou d'une manière manifeste. Mais très souvent, ils agissent dans votre vie, contre votre vie, de manière subtile. Tout à l'heure, après vous avoir cité, je vous dirai comment vaincre, comment faire fuir les ennemis. Amen. Alléluia. Après l'histoire de Caïn, on continue la parole de Dieu, on arrive à Noé. Noé avait pour ennemi le monde. Les gens du monde qui se moquaient de lui. L'esprit de la mondanité. Le monde au temps de Noé était un monde perverti. Un monde qui ne vivait pas, qui vivait sans Dieu. La Bible dit dans le livre de Matthieu 24, verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se marièrent et marièrent leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Donc vous avez une vie qui était à peu près normale. Mais les gens n'avaient pas Dieu. Ce type d'ennemi qui est le monde arrive à atteindre la vie de beaucoup de personnes. Je vais faire encore une parenthèse. Je vais revenir un tout petit peu en arrière. Je fais une parenthèse. Je suis en train de citer les ennemis. La dernière fois avant de partir en voyage, j'avais dit ceci. Mais vous-même, ne soyez pas les ennemis pour les autres. Amen. Parce que si vous attaquez un vrai enfant de Dieu, Dieu va vous disperser vous-même par cette chemin. Oui. Ça veut dire quoi? Ne soyez pas jaloux. N'enviez pas la faveur que Dieu manifeste dans la vie des autres. Réjouissez-vous du succès des autres. Bénissez l'Éternel pour cela. Si ton frère réussit, ça te fait mal, ton cœur te pince. Tu es en voie d'être un ennemi. Prie jusqu'à ce que ça disparaisse. Toi-même, il ne faut pas être un ennemi. Le jour que ta soeur est bénie, ton frère est béni, loue l'Éternel, ton Dieu. Célèbre Dieu. Cette attitude-là fera que Dieu va te bénir toi-même. Amen. Ne sois pas jaloux. Ces genres de sentiments-là te rendront forcément un ennemi pour d'autres personnes. Amen. Alléluia. L'esprit du monde, la mentalité du monde est un grave ennemi. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un des grands ennemis auxquels nous sommes confrontés. Les gens veulent penser, veulent agir comme le monde. Ils veulent faire les choses comme le monde est en train de faire. La Bible dit, si vous aimez le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point en vous. Amen. Car l'amour du monde, dit le Seigneur, est inimitié contre Dieu. Et l'esprit du monde attaquait la vie de Noé. Mais Noé, par sa foi, par sa détermination à regarder le Seigneur, n'a pas fait comme les autres. N'imitez pas les gens du monde. N'imitez pas ce que le monde fait. J'ai longuement enseigné ces derniers jours sur le tabernacle. Je vous ai dit de quitter le parvis. Dieu ne peut pas vous multiplier si vous êtes dans le parvis ou à la clôture du parvis. Ceux qui n'ont pas suivi l'enseignement, je crois que l'enseignement est repassé à la radio il n'y a pas longtemps, et puis ces jours-ci, et puis les CD sont là. Si vous êtes dans le parvis, Dieu ne peut pas, Dieu ne va pas vous multiplier. Vous n'allez pas passer la porte de Zabulon. Si vous aimez le monde et les choses qui sont dans le monde, l'esprit de la mode, c'est un esprit qui est malsain. Le diable crée toute une atmosphère. Quand les gens vous disent peut-être non, vous êtes gawa, vous êtes ceci, c'est pas grave. Votre mentalité, c'est pas grave. Amen. Marchez par rapport aux choses que vous recevez de Dieu. N'ayez pas de complexe. Amen. Dans l'esprit de la mondanité aussi, je peux voir l'aspect de la vision qui est limitée. De la vision limitée. Dimanche dernier, j'en parlais. Une chose que j'ai constatée dans les églises, et ici, c'est que, malgré le fait que les gens prononcent, proclament constamment, vous serez la tête, on sera la tête, les gens même, dans leur esprit, ont une vision limitée de leur élévation. Alléluia. Par exemple, qui croit que quelqu'un qui pense que avoir une église de 3000 personnes est une grande assemblée, ça c'est un esprit qui est limité. Et moi je pense que c'est une mentalité du monde. Amen. Mentalité du monde par rapport à l'église. Il faut avoir la victoire sur ces choses. Alléluia. Est-ce que le monde t'influence? Est-ce que tu te sens attiré vers l'esprit du monde? Les choses du monde, la mode, la gloire du monde, la mentalité du monde. La mentalité du monde, par exemple, peut vous faire rater votre mariage. Si vous vous mariez selon les principes du monde. La mentalité, donc, c'est en ça que c'est un ennemi. Si vous travaillez selon l'esprit du monde, la mentalité du monde comment dirais-je, vous donner des inspirations négatives pour voir votre entreprise se développer. En te donnant des conseils, non, mon enfant, mon ami, faut tricher un peu avec les impôts. Faut tricher avec ceci, fais ceci. Si tu veux que ton affaire bouge, triche un peu comme ça. C'est l'esprit du monde. Vous acceptez ça dans votre boîte. Vous acceptez ça dans vos activités. Vous n'allez jamais connaître la multiplication de Dieu. L'esprit du monde, c'est la convoitise. Alléluia. Dieu va vous élever. Mais pour que Dieu vous élève, il faut que vous bâtissiez sur lui. Il faut que vos yeux soient fixés sur lui. Amen. Le pasteur Alain, dans son message, a dit tout à l'heure, les serpents étaient là. Dieu n'a pas tué les serpents. Il a dit simplement, levez les yeux sur le serpent des reins. Et c'est là qu'ils étaient guéris. Ayez vos yeux fixés sur le Seigneur et vous verrez sa gloire. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On va prier un peu, puis je continue les autres ennemis. Amen. Ça, c'est pour vous faire bouger un peu. C'est que si il ne fait pas ça, c'est pas bon. Le diable a tout pris que vous dormiez, c'est pas bien ça. Mais juste avant, pour vous conduire dans la prière contre les ennemis, on va faire la prière de Job 38. Job 38, verset 12. Je lis ce passage. Il est dit, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement? Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé? Job 38, verset 12 à 15. Cette prière-là, en fait, cette attitude de prière est une attitude qui permet de déblayer les ennemis sur votre chemin. Amen. C'est une prière que vous devez avoir comme une habitude. La prière avant le lever du jour. Frère, ça marche. Qui a déjà essayé ça? Vous avez essayé, non? Ça marche. Quand Dieu utilisait, comment dirais-je, Moïse, lisez bien le passage, Dieu disait toujours à Moïse, va voir Pharaon très tôt le matin. Parce que avant le lever du soleil, là, beaucoup de choses se passe. En fait, je ne sais pas tout le mystère, mais je sais une chose, c'est que Jésus pouvait dire à ses disciples, il leur dit, le diable vous a réclamé pour vous cribler, il dit, mais veillez et priez afin que vous ne tombiez en tentation, ou bien que vous ne tombiez dans les pièges du tentateur. Et les pièges du tentateur sont divers. Je dis, vous pouvez avoir une adversité, Satan vient s'opposer à vous, mais vous pouvez avoir de faux conseils que vous pensez être de bons conseils. Quelqu'un qui vient te conseiller, va faire ton commerce comme cela, va faire ceci. Ça peut être l'ennemi qui te parle. Amen. Il y a encore d'autres ennemis qu'on va toucher. Mais quand vous vous levez le matin, avant le lever, il dit, regardez ce que Dieu dit à Job. Il dit, Job, est-ce que, depuis que tu existes, est-ce que tu as déjà commandé au matin? Est-ce que tu as montré sa place à l'aurore? En fait, il dit, quand tu vas ordonner au matin, tu vas ordonner à l'aurore. Voilà ce que je vais faire. Il dit, pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme des vêtements. Pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Il dit, veillez. Le mot veiller, ça ne veut pas dire forcément ce dont Jésus parlait. Ça ne veut pas dire prier toute la nuit. Jésus a dit, vous n'avez pas veillé une heure. Je veux dire, dans la nuit, avant le lever du jour. Vous devez vous donner ça comme discipline. Réveille-toi, commande au matin, commande à l'aurore. Aplanis ton sentier. Fais cette prière. Si ton sommeil est lourd, mets un réveil brutal. C'est pas grave. Moi, ma femme, elle réveille là. Papa. Je dis, matin, là, on prie le matin. C'est-à-dire, il y a des fois, on était fatigué. Mais depuis, on a compris la révélation là. Parce que tout le monde a l'habitude de se lever. Je sais que beaucoup de gens ont l'habitude de se lever à 4 heures, mais quand tu es trop fatigué, tu veux tricher un peu, quoi. Donc on a mis un réveil pour nous empêcher de tricher. Il dit, mais quand ça sonne le matin, et tu es réveillé, c'est comme si on a lavé en mettant ta figure. Tu as envie de prier. Amen. J'ai vu même dans un film, les gens, ils ont fait un réveil qui fuit. Vous savez, le réveil, quand ça sonne, tu sais, sinon je vais, non? Si tu veux le toucher, ça roule, ça se met au bout là-bas. Donc tu es obligé de, pour l'arrêter là, tu es obligé de le poursuivre dans la chambre.
Donc, le temps que tu l'attrapes, tu es déjà arrivé.
Donc, ils ont mis des roues au réveil, quoi. Donc, quand il commence à sonner, lui, il fuit. Allez, il court. Et en fait, il roule, il s'en va. Donc, toi, tu te réveilles. Et puis, il sonne mal. Toi, tu as envie d'aller arrêter. Donc, le temps de te sortir de ton drap, aller sur le réveil, tu es déjà arrivé. Frère, il faut vous réveiller le matin. Amen. Il faut prendre l'habitude de commander à l'aurore. Il faut prendre cette habitude. Il ne faut pas que le soleil se lève sur votre jour. C'est-à-dire, il faut prier toute la journée, c'est vrai. Mais vous réveillez, tu dors jusqu'à 8h. Le diable a déjà mis tous les pièges. Ta journée est déjà minée. Les mines sont placées. Quand tu ne mets pas, boum, boum, boum. Donc, Dieu disait à Moïse, il dit, lève-toi très tôt le matin. C'est-à-dire, avant que même Pharaon n'ait fait ses incantations, toi sois là. Mais regardez nos amis les musulmans. Vous comprenez, non? La majorité des sectes prient avant le lever du jour. La majorité des sectes. Jésus dit, veillez et priez pour ne pas que le tentateur ait la victoire sur vous. Est-ce qu'il a dit à ses disciples? Remarquez, Jésus priait toutes les nuits. Bon, je ne vais pas donner des heures. Il y en a qui ont fait des études pour dire à telle heure. Ça, je n'ai pas vu ça dans la Bible. Mais, je sais qu'avant le lever du soleil, commande à ta journée. Aplanis ton sentier. Si le soleil t'a trouvé, tu te réveilles, le soleil est apparu là. Tu es un peu en danger déjà. Donc, mais c'est pas grave, commence à prier. Mais dormir jusqu'à 10 heures, c'est pas bon. Alléluia. Amen. C'est mieux de te lever vers 2 heures, 3 heures, tu pries. Si tu es très fatigué, tu dors un peu, tu te réveilles à 1 heure, tu pries jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin. Tu t'endors. Tu commandes à ta journée. Tu prends autorité. Tu commandes au matin. Vous devez prendre l'habitude de déblayer votre journée de vos ennemis. Quand vous allez faire cette prière, vous allez voir que Dieu va planifier vos rencontres. Quand même quelqu'un va venir vers vous donner un faux conseil, vous allez sentir en vous qu'il ne faut pas suivre. Il y a comme une faveur de Dieu qui va vous accompagner. Amen. Vous allez commencer à déjouer les pièges de l'ennemi. Les gens qui étaient contre vous, qui voulaient venir dans la journée pour vous créer des problèmes, intentionnellement ou bien, c'est-à-dire consciemment ou inconsciemment, Dieu va vous donner de triompher d'eux.
Amen. Si tu es content, tu vas acclamer le Seigneur. Ok, gloire à Dieu. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Amen.
Vous avez été béni par ce message. À votre tour, conseillez-le à une personne. Vous contribuerez ainsi à faire progresser l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.